Des ondes, des ailes, sur Radio Ondaine, un rendez-vous mensuel avec la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de la Loire. Un tour d'horizon en vol groupé pour découvrir les oiseaux de notre territoire, la faune, la flore et toutes les personnes qui s'engagent pour connaître, protéger, sensibiliser et favoriser la biodiversité. La Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO Loire, une association au service de la nature et des hommes, sur Radio Ondaine 90.9 FM et sur le www.radio-ondaine.fr.
Et pour ce mois d'avril, nous allons découvrir la chouette effraie. C'est Jean-Pierre Brunel, bénévole à la LPO Loire, en charge du suivi des rapaces nocturnes et plus précisément de cette chouette effraie, que nous rencontrons.
Alors, la chouette effraie, alors, pourquoi ce nom ? C'est sans doute attribué à son cri très particulier, qui pour certains avait tendance un petit peu à effrayer, tout simplement. C'est pas vraiment un chant comme d'autres oiseaux. C'est pas non plus un ululement comme la chouette hulotte. C'est une espèce de cri assez particulier et assez effrayant, si on veut reprendre le terme. Et c'est souvent ce qui crée des peurs dans les périodes, on va dire, un peu plus anciennes, quand ces oiseaux étaient dans les greniers. La nuit, ils se manifestaient par des cris un peu inquiétants et ça laissait supposer plein de choses, on va dire, un petit peu bizarres, quoi.
Alors, pas très rassurante. Et en plus de ça, je crois que son autre petit surnom, c'est la Dame Blanche.
C'est la Dame Blanche. Ce qui fait que les gens qui peuvent l'apercevoir dans la nuit, ils voient passer un oiseau totalement blanc, totalement immaculé sous le dessous. Et donc qui finissait d'engendrer, pour certains, d'engendrer la peur.
Alors, au-delà de la peur, ce rapace-là, cette chouette effraie, est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Oui, alors c'est un oiseau qui alors sur le dessous est très très blanc, sur le dessus est plutôt brun, ocre, tout dépend des individus eux-mêmes, ça peut varier un petit peu. Son visage est en forme de cœur, c'est assez particulier. C'est un oiseau qui fait 80 cm d'envergure pour un poids très modeste de 300 grammes. Ça, c'est un peu le propre de tous les rapaces. On prend que ce soit les rapaces nocturnes ou les rapaces diurnes. Même le hibou grand-duc, par exemple, qui arrive à faire 1m40 d'envergure, c'est pas pour autant que l'oiseau, c'est un oiseau qui est relativement léger, qui doit faire 800 grammes. Donc les rapaces, de manière générale, même les rapaces diurnes, sont des oiseaux très très légers.
Alors parlons de cette chouette effraie, où est-ce qu'on la retrouve ? Il me semble que c'est une espèce que l'on retrouve un peu de partout sur le globe.
Oui, voilà. Alors, elle a le don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'elle peut se retrouver à peu près sur tous les continents. D'ailleurs, c'est une des rares espèces que l'on retrouve sur tous les continents. Après, chez nous, dans la partie plus dans notre pays, on va dire qu'elle est essentiellement rurale. Elle était inféodée au départ à tous les bâtiments agricoles qui avaient tous des granges, etc. Et dans les églises, bien sûr, puisqu'on l'appelle également les frais des clochers.
Alors, si on imagine, et avec vos explications de son lieu de vie, dans les clochers, dans les granges, on voit tout de suite très bien son repas préféré. Comment elle se nourrit ?
Alors, la chouette effraie se nourrit à 90% de micro-mammifères et essentiellement du campagnol des champs. Sinon, il peut y avoir accessoirement des mulots, des musaraignes, il peut y avoir quelques grenouilles, mais c'est essentiellement du campagnol des champs. Donc c'est un oiseau qui est extrêmement utile pour l'agriculture, parce qu'elle va, alors au même titre que les rapaces diurnes, comme d'autres, le faucon cresserelle ou le busard, elle va, elle de nuit évidemment, mais elle va nettoyer et prélever énormément de rongeurs et de micro-mammifères.
Alors vous êtes le spécialiste ici à la LPO Loire pour l'observation de la chouette effraie. Oui. Cet oiseau-là, ce rapace-là, comment se porte-t-il au niveau des individus ? Est-ce que c'est une espèce en danger ? Est-ce que c'est une espèce qui prolifère facilement ?
Alors non, c'est une espèce qui est en danger. et qui subit en plus les beaucoup de choses, on va dire. Il y a une partie intempérie. S'il y a vraiment des hivers très rigoureux, c'est un oiseau qui a, de tous les rapaces, c'est celui qui a le moins de masse adipeuse, c'est-à-dire qui a très peu de chair et qui est très sujette au froid. Donc si les périodes de froid durent 15 jours, 3 semaines avec des grandes périodes de gel, elle aura du mal à survivre à ça. Alors après, elle dépend aussi évidemment de son environnement, et comme tout s'est modifié dans la partie rurale, on va dire les fermes, les granges se sont refermées, maintenant ce sont plus des stabulations avec ossature métallique qui ont remplacé les fermes. Les clochers, eux, ont été grillagés pour des raisons d'envahissement des pigeons. Et ce qui fait que tous les endroits où elle avait habitude de se reproduire, elle n'y avait plus accès. Et on peut rajouter probablement à ça, dans son mauvais état, on va dire, la partie traitement des intrants chimiques dans l'agriculture, qui ont une répercussion aussi sur son régime alimentaire.
Alors, c'est une espèce donc qui n'est pas gâtée par notre mode de vie. Vous parliez des reproductions. Quelle est sa période de reproduction?
Alors, la période de reproduction, elle va commencer selon les années, mais plutôt avril-mai. Et les jeunes, les premiers jeunes vont s'envoler fin juin. Alors, si l'année est favorable au niveau micro-mammifère, elle va faire une deuxième reproduction durant l'été. C'est ce qui lui permet aussi de reconstruire un petit peu ses populations les années fastes, on va dire.
Alors, revenons un peu sur ce que vous disiez précédemment, sur le fait que les clochers soient grillagés, que les granges aient des ossatures métalliques et donc un accès, et fermé bien sûr, un accès beaucoup plus compliqué. Comment fait-on pour favoriser sa reproduction? Est-ce que avec la LPO ou même d'autres personnes, il y a la volonté d'aménager des espaces qui imitent finalement ces lieux d'habitation et ces lieux de reproduction?
Alors, ce que j'avais commencé de faire, on va dire, dans les années 2000, bon, je me suis inspiré tout simplement de ce qui s'est fait en Bourgogne précédemment, c'est d'installer des nichoirs, c'est-à-dire c'est des espèces de caisses que l'on met dans certains greniers, dans certains clochers, chez des particuliers, qui va permettre à l'espèce à nouveau de retrouver un endroit pour se reproduire. Alors, on avait commencé ça dans les années 2000. Moi, j'ai commencé avec un nichoir, 2, 10, et aujourd'hui, on en est à 91, si je ne dis pas de bêtises. On doit en être à 91 dans la Loire. Et on fait, alors, et ça marche de mieux en mieux, j'allais dire, y compris avec les mairies qui ont compris qu'il y avait un message écologique et important à redonner à cette espèce, évidemment. Et c'est quelque chose qui marche plutôt bien aujourd'hui.
Alors, ces nichoirs sont installés chez des particuliers, dans des bâtiments municipaux, et à quels endroits géographiquement sur le territoire?
À quels endroits? On va dire, c'est assez. Il y en a beaucoup pour l'instant, Mont du Forêt, Mont du Lyonnais et Plaine du Forêt. Il y en a peu dans le Pilat et peu dans le Rouennais. Mais ça, c'est plus tout simplement pour des raisons de disponibilité de bénévoles, parce que le réseau, jusqu'à ce jour, n'était pas très important, les personnes pouvant m'aider dans ce suivi. Et justement, depuis un an ou deux, on a commencé de trouver des bénévoles qui vont m'aider pour faire le suivi de la reproduction et m'aider également dans l'installation de nouveaux nichoirs.
Alors justement, dans votre rôle, ce suivi de la reproduction, cette observation de la chouette effraie, quelles sont ensuite, au-delà de vos observations, les remarques que vous faites, et puis qu'est-ce que vous en faites finalement de vos études?
Qu'est-ce que l'on en fait? Déjà, on passe systématiquement dans tous les nichoirs au mois d'avril-mai. Après, on dénombre le nombre de jeunes. Évidemment, tout ça c'est suivi sur un fichier au fil des années. Après, on fait aussi des récoltes de pelote de réjection. Les rapaces nocturnes, lorsqu'ils sont, ils ont fini la digestion, ils rejettent par le bec des pelotes qui contiennent les os et les poils. Si on fait une analyse de tout ça, ça leur détermine leur régime alimentaire. Et ça permet aussi d'établir un suivi par commune, par exemple, des micro-mammifères. Ça peut servir dans le cas d'études d'impact que la LPO doit faire pour des communes, pour des aménagements, des choses comme ça. L'année passée, pour information 2021, il y a ces 94 jeunes qui sont sortis des nichoirs. Et depuis le suivi, enfin depuis le suivi sur un fichier de Séropro, on en est à 340 jeunes.
D'accord, donc une population qui tend à grandir en nombre. Rapport à d'autres départements, est-ce que vous avez des contacts avec d'autres correspondants de la LPO pour croiser un peu les données ou pas ?
Oui, on a essentiellement des contacts avec la LPO Bourgogne, alors qu'ils sont, eux, alors nous on est à 90, eux ils sont à 500 nichoirs. Bon, ils font ça depuis bon nombre d'années et le groupe de bénévoles est beaucoup plus important. Et ils font même également, en même temps, ils font un suivi à l'aide de bagages, c'est-à-dire qu'ils vont baguer les jeunes avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Et ça peut aussi servir quand les jeunes s'émancipent, jusqu'à ce jour, on ne savait pas trop où ils allaient, s'ils allaient à 10 km, à 100 km. Et le fait de baguer des oiseaux et ensuite de les retrouver dans d'autres nichoirs, Ça sert un petit peu à suivre leur ligne de vie, savoir où ils sont nés, quel âge ils ont, des choses comme ça. Mais pour l'instant, dans la Loire, on n'est pas capable de faire le suivi avec du bagage, parce que là, ça demande encore plus de temps.
Ça demande du temps, ça demande des bénévoles. On peut aussi indiquer à nos auditeurs qu'ils peuvent également se rapprocher de la LPO, notamment pour prendre contact. Et puis, pourquoi pas participer à des comptages, à de l'observation. Et si l'on parle de l'observation, qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce que c'est une espèce qu'il faut « traquer », entre guillemets, aller voir, ou est-ce qu'il faut la laisser tranquille ?
Alors non, c'est plutôt une espèce qu'il faut laisser tranquille, en sachant que l'observation est très très difficile sur la chouette effraie. C'est un oiseau très discret, alors qu'il est complètement nocturne, donc c'est vraiment très difficile d'observer une chouette effraie. Les auditeurs pourraient le faire, comme vous l'avez proposé, en suivant des bénévoles de la LPO, mais sinon c'est relativement compliqué d'en voir...
Et puis on parlait de son cri très particulier. On va peut-être indiquer ne pas chercher à suivre les traces avec les oreilles et donc avec ces cris-là, parce que finalement ces oiseaux se font rares, donc autant les laisser proliférer et se multiplier en nombre d'individus. Pour continuer un peu avec les éléments perturbateurs pour sa vie, vous parliez un peu de l'utilisation de produits par des agriculteurs. Est-ce que là aussi, vous tentez des sensibilisations ?
Oui, alors, j'allais dire que, paradoxalement, c'est quelque chose qui, à ma surprise d'ailleurs, qui commence à vraiment évoluer. J'en veux pour preuve que sur les 10 derniers nichoirs que j'ai installés, il y en a 6 qui ont été installés chez des agriculteurs, qui en ont fait la demande, tout simplement, parce qu'ils ont compris l'intérêt de... Alors, pas seulement de la chouette effraie, hein. Ça peut être la chouette effraie, le faucon cresserelle, la chouette hulotte, la chouette chevêche, enfin tout ce que l'on peut appeler comme des auxiliaires des cultures. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de changer. Je le ressens, personnellement, moi je le ressens, il y a un changement de mentalité.
Eh ben, du coup, ça fait plaisir à entendre. Alors, oui, pour terminer notre entretien, vous êtes donc spécialiste de la chouette effraie ici. Est-ce que vous avez une anecdote sur une rencontre, une observation particulière que vous avez pu faire avec la chouette effraie ?
Alors, une rencontre, non, j'ai un souvenir par contre qui est, enfin, pour moi, qui est assez fantastique. C'était en mois de juin, mais il y a pas mal d'années, à l'envol de jeunes chouettes effraies, qui ont l'âge de 2 mois à peu près lorsqu'elles quittent le nichoir. Et je m'étais installé à bonne distance d'observation, on va dire. Et ces jeunes oiseaux se sont envolés du nichoir, c'était pratiquement nuit, hein, c'était au mois de fin juin, pareil. Et ils sont venus me survoler en se posant la question quel était cet individu qui les regardait. Alors, la particularité du rapace nocturne, c'est qu'il vole, mais il ne fait absolument aucun bruit, parce qu'il a des ailes qui sont frangées au début, et c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bruit de pénétration dans l'air. Et j'avais ces trois jeunes oiseaux qui faisaient du surplace et qui m'observaient. Et c'est un souvenir que je crois que je garderai très longtemps. Voilà.
Eh bien, merci. Comme quoi, cette chouette effraie n'effraie pas tout le temps.
Non, elle n'effraie pas tout le temps. Et comment dire, elle mérite d'être suivie, aidée et observée. Voilà.